François, publication ce lundi 26 août 2019 du gouvernement Ilunga Ilukamba. Ce gouvernement de coalition de 66 membres est composé de près de 77% des nouvelles personnalités politiques. On note aussi dans ce gouvernement environ 17% des femmes. Quelle analyse faire de la composition de ce gouvernement et quels sont les défis qui l'attendent? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce lundi 26 août 2019. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats André Alatundu, cadre du FCC et porte-parole de cette plateforme. Monsieur Atundu, bonsoir.
Bonsoir.
Cher Hubert Okende, député national, cadre de l'AMUKA et porte-parole de cette plateforme. Monsieur Okende, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Félicien Kabamba, professeur et chercheur à l'Université de Kinshasa. Professeur, bonsoir.
Bonsoir, Kelly.
Merci, parce que vous êtes nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Jérémy Bétoffé depuis la France. Comme tout Congolais, je félicite tous les ministres nommés. Ils doivent être des bons patriotes, c'est-à-dire travailler pour l'intérêt du peuple et non celui des autorités morales. Merci de nous suivre à Kinshasa sur la 103.5. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiookapi.net.
Publication ce lundi matin du gouvernement de la RDC. Une équipe composée de 66 membres avec 17% des femmes, 77% des nouvelles figures et 23% des anciens ministres. Finit donc le long suspense de près de 7 mois d'attente. Le premier ministre Ilunga Ilukamba confirme la prise en compte de la représentativité nationale dans son équipe. Une équipe qui a pour mission de suivre la ligne directrice telle que montrée par le chef de l'État. Celle du changement qui commence maintenant. Non, conclut-il. Quelques figures de ce gouvernement dans ce condensé de Billy Yvon Lutumba rendu par Blaise Shindani.
Le gouvernement de coalition de Ilunga comprend 5 vice-premiers ministres, 10 ministres d'État, 31 ministres, 3 ministres délégués et 17 vice-ministres. Son vice-premier ministre, Gilbert Kankonde, à l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, vice-premier ministre du plan, Madame Élisée Monemboué, vice-premier ministre de justice et garde des Sceaux, Célestin Tundayakasende, vice-premier ministre du budget, Monsieur Jean-Baudouin Maillot Mambeke, vice-premier ministre des infrastructures et travaux publics, Willy Ngopos Sunzel. Parmi les ministres d'État, parlant des femmes, nous avons Madame Marie Toumbanzeza comme ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Madame Néné Nkoulou, ministre d'État, ministre du Genre, Famille et Enfants, Travail et Prévoyance Sociale, Béatrice Loméa Atilité, ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Parmi les ministres d'État figure un ancien nom, Azarias Roubéroy, qui garde le même portefeuille que du temps de Joseph Kabila.
Merci Blaise Shindani. Le regroupement FDCA et Alliés ne va pas baisser les bras. Il va continuer à travailler tout en étant dans le droit chemin et pour le respect des valeurs. C'est en substance la réaction de Modeste Bahati, président national de ce regroupement politique, après la publication de la liste du gouvernement hier par le premier ministre Ilunga Ilukamba. Un gouvernement dans lequel son regroupement est absent. Modeste Bahati félicite les heureux promus et espère qu'ils travailleront pour l'intérêt du peuple. André Alain Atundu, vous êtes cadre du FCC et porte-parole de cette plateforme. Comment vous analysez la composition de ce gouvernement?
Merci, madame. La composition de ce gouvernement traduit avantageusement la volonté de la coalition FCC-CACH de respecter presque scrupuleusement l'exigence de l'opinion nationale, à savoir ne pas voir figurer dans ce gouvernement des personnalités à problème, tant sur le plan national qu'international, ensuite de voir de nouvelles figures qu'on peut qualifier de porteuses d'espoir. Et en plus, vous avez signalé les 17% des femmes, mais je crois que l'élément le plus important, c'est que, en termes d'importance politique dans le gouvernement, les postes occupés par les femmes, je crois, pèseraient presque plus de 30%. Et donc, je pense que...
À cause des portefeuilles importants qu'elles occupent.
Oui, elles s'occupent. Il y a des vice-ministres, il y a des ministres d'État, il y a des ministres, et pas des postes complaisamment jadis accordés aux femmes, comme... enfin, je ne vais pas les citer parce qu'il n'y a pas... Mais enfin, voilà. Ceci pour dire que l'équipe est à pied d'œuvre. Maintenant, il nous reste à connaître le programme du gouvernement et surtout à souhaiter son agrément par l'Assemblée nationale pour qu'enfin il puisse commencer ce pourquoi la coalition existe, à savoir s'attaquer aux défis et aux enjeux qui se présentent au peuple congolais.
Nouvelle figure porteuse d'espoir, mais on retrouve quand même des anciens ministres dans ce gouvernement. C'était difficile de les remplacer?
Non, tout simplement, la vie politique n'est pas faite de générations spontanées. Il faut quand même qu'il y ait un lien, n'est-ce pas? Le critère de base, c'était que, un, il ne devait pas poser de problème, les personnalités qui y figureraient. Deux, que ce seraient de nouvelles figures. On n'a pas dit qu'on remplacerait toutes les figures, les anciennes figures, pas les nouvelles. Non. Et je pense que les personnes qui font partie, les anciens qui font partie de ce gouvernement, n'ont pas soulevé un tollé dans l'opinion, au point qu'on peut estimer raisonnablement que l'exigence et l'aspiration de l'opinion à avoir un gouvernement d'un esprit nouveau et différent des anciens a été réalisé.
Alors certains observateurs estiment que, vu le nombre élevé des ministres FCC dans ce gouvernement, on risque, ça sera la continuité de l'ancien pouvoir.
Non. Lorsque on entre au gouvernement, on provient d'une famille. Lorsqu'on travaille au gouvernement, on travaille pour la République, sous la direction du chef de l'État.
C'est le cas en RDC ?
Absolument. Absolument. Vous n'allez pas imaginer qu'un ministre de ce gouvernement travaille contre le Premier ministre ou contre le président Tshisekedi. C'est la voie à la démission.
Alors c'est comme cet auditeur de France qui demande au ministre nommé de travailler pour l'intérêt du peuple. Non, c'est lui des autorités morales, parce qu'on sait comment quand même ça se passe chez nous. Hein.
Non, pas seulement chez nous.
On rend compte dans à l'autorité
monde.
Morale.
Hein. Non. Voilà. La tâche qu'on confie au gouvernement, c'est une tâche républicaine. Les personnes chargées d'assurer la républicité de cette tâche au regard des engagements pris, ce sont les autorités morales et les regroupements politiques. Et donc, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un parce qu'il provient d'un regroupement politique ou d'un parti politique donné, mais on peut lui en vouloir si il ne réalise pas comme il faut, comme l'attend le peuple, son devoir et sa tâche.
Alors, par rapport à la tête de ce gouvernement même, André Alain Atundu, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a certains experts qui estiment que la taille de ce gouvernement est trop grande, ça risque de peser sur le budget.
Non. Ça, ce sont des économies de bout de chandelle. La constitution, la composition générale du gouvernement tient compte d'un certain nombre de paramètres. Donc, on dirait l'équilibre sociopolitique et les intérêts conjoncturels. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que 65 000 ministres? Ça ne vaut même pas 65 millions par mois. Donc aucun ministre ne touche 1 million. Donc tout le reste, ce sont des économies de bout de chandelle. Il faut les juger la taille de ce gouvernement par rapport aux objectifs du chef de l'État, par rapport au programme d'action du gouvernement et par rapport aux défis et aux enjeux. Le nombre n'est pas un critère absolu ou un paradigme de réussite. Vous verrez, dans tel pays, c'est 13, dans tel autre, c'est 60, dans tel autre, c'est 100, puisqu'il y en a. Alors, qu'est-ce qu'on compte? Un pays africain qui a 100 ministres, eh bien, il est cité parmi les modèles du Fonds monétaire.
Merci André Alain Atondou, chérubin Okende, député national, cadre de la Mouka et porte-parole de cette plateforme. Votre lecture par rapport à la composition du gouvernement Ilunga Ilunkamba.
Je vous remercie d'abord, madame, de m'avoir donné aujourd'hui une occasion de partager la réflexion avec Alain André Atondou. Ça fait belle lurette que un aîné comme lui m'a toujours évité au lieu de m'inviter. Vous comprendrez pourquoi. Je suis d'un autre bout politique et il est resté dans FCC Cash pour incarner la continuité au lieu d'accepter le changement. Vous verrez que dans la taille de ce gouvernement, André Alain s'est gêné un peu. C'est un gouvernement éléphantesque. Lui-même a toujours prôné la mesure. Mais aujourd'hui, puisque les FCC continuent de ployer sous le mot d'ordre de l'autorité morale, et il faut arriver un temps soit peu à assouvir la gourmandise de pouvoir des uns et des autres, voilà le gouvernement qu'on vient de nous produire. Mais on ne le produit quand, madame? Après 7 mois de tergiversation, après 7 mois de querelles byzantines, après 7 mois de querelles de ménage entre FCC, FCC et cash. Et ça fait quand même un problème, des bonnes personnes. Je ne pense pas que André Alain Atondou serait un mauvais élément dans ce gouvernement, d'autant plus qu'il est nanti d'une expérience avérée. Bon, ça, ce n'est pas notre problème du tout. Nous allons les attendre par le programme du gouvernement, à travers le programme du gouvernement. J'ai dit ici et le répète. Nous serons très exigeants en tant qu'opposition républicaine. Nous n'allons pas les attendre sur leur dérobade dans la gestion de l'État. Nous allons voir des problèmes réels. L'eau et l'électricité pour les Congolais, des salaires décents et surtout de l'emploi pour ces jeunes qui ont la force de pouvoir travailler mais qui triment encore dans le chômage. Nous allons tout faire pour que les droits constitutionnels des Congolais soient respectés. Vous voyez aujourd'hui la problématique.
Là, vous parlez déjà des défis qui attendent ce gouvernement, mais par rapport à la composition, 77% de nouvelles personnalités, est-ce que ce n'est pas... une bonne chose.
Madame,
ce n'est pas ce que le peuple a demandé.
Je voudrais bien qu'il nous prouve le contraire, mais l'impression que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on veut déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, d'autant plus que le cadre de leur gouvernance telle que présumée reste le même. Nous avons cette fameuse coalition cash-FCC qui n'a pas d'alternative crédible à proposer aux Congolais. Et nous allons le voir par des actes de gouvernement pour voir quel type de politique publique ils vont engager et si ces politiques ne concordent pas avec les attentes du peuple congolais, des salaires décents, de l'emploi, de l'eau et l'électricité, de l'accès au logement décent, l'autosuffisance alimentaire et j'en passe, et ils nous trouveront au bout du chemin, c'est cela aussi, sustenter la véritable démocratie, donner de la vitalité à l'état de droit. Nous sommes là pour invoquer une opposition républicaine et nous les attendons au tournant, madame.
Alors, un gouvernement composé des ministres du FCC et de cash, voilà. Un nouveau président de la République qui est venu avec sa ligne directrice. Il faut espérer quand même...
Non, madame. Si tel était le cas, nous n'aurions pas tourné le pouce 7 mois après dans un pays exsangue. Non. Aujourd'hui, la triste réalité que les Congolais connaissent, que le président Joseph Kabila, autorité morale du FCC, continue à avoir une mainmise, que bon, de l'autre côté, il y a des balbutiements. Ils savent eux-mêmes la portée de leur coalition. Et nous, en tant que Congolais, nous voudrions voir Félix Tshisekedi s'assumer en tant que véritable président de la République. Nous allons voir également à travers un gouvernement dont il ne porte pas lui-même la véritable majorité, comment il va s'assumer. Ça sera le programme du FCC ou bien ça sera le programme de cash que nous allons voir. Et moi, je suis
ça
à l'Assemblée nationale, madame.
Ça sera le programme de la coalition, FCC-cash.
Je parie bien que dans une coalition, dans un mariage comme celui-là, c'est le plus fort qui impose toujours sa loi. Et ça, sans porter de lunettes, c'est le FCC qui est la composante la plus forte dans cette coalition. Nous allons voir avec quelle capacité ceux du cash auront, à répondre aux problèmes des Congolais déjà, avec ce qui est en train de se passer. Le président de la République qui donne un programme, donc sans repère du tout. Vous avez vu, comment on les appelle, les sauts de chèvre ou sauts de mouton. Nous allons voir. Et nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous devons savoir, il a puisé ce fonds où. Est-ce on va aligner cela dans le gouvernement qui vient de prendre corps aujourd'hui. Nous avons encore la patience d'ignorer, mais le peuple congolais n'est plus cette dupe naïve qu'on va rouler dans la farine, surtout lorsque on a clamé hier le peuple d'abord, mais aujourd'hui nous voyons presque la prédation au sommet de l'État. Nous allons assumer nos responsabilités en tant que républicains.
Merci, chérubin Okende, Félicien. Professeur Félicien Kabamba, professeur et chercheur à l'université de Kinshasa. Professeur, vous, qu'est-ce que vous pensez de la composition de ce gouvernement?
D'abord, les négociations ont été longues et elles ont mis beaucoup de temps, ce qui a contribué à nous révéler à la fois les convergences, mais aussi la profondeur du fossé qui sépare le FCC du cash, et en particulier le chef de l'État. Et ce qui, vous avez vu que la nomination du Premier ministre a pris beaucoup de temps, et en plus, vous avez la formation du gouvernement qui a pris également beaucoup de temps. Alors, quand vous voyez le gouvernement, là, sa composition au moins, un certain nombre de constats peuvent être faits. Le premier, c'est l'absence de poids lourd du FCC dans ce gouvernement. Et en particulier l'entourage immédiat de l'ancien chef de l'État, ce qui est évidemment un indicateur de ce fossé. En fait, cette absence est justifiée par le fait que le chef de l'État voulant amorcer la rupture, il ne pouvait pas le faire avec les personnalités qui sont supposées incarner la continuité. Et donc il a choisi, et quand vous regardez d'ailleurs les postes principaux de vice-premier ministre, ces postes sont confiés à des personnalités qui ne sont pas de poids lourd de l'ancienne majorité. Et vous avez le deuxième constat, c'est qu'en fait, la nomination de nouvelles personnalités, c'est à des portefeuilles clés. Et ces portefeuilles clés, c'est comme les finances, vous avez les mines, vous avez la défense, vous avez les affaires étrangères, vous avez le budget. Et il s'agit là de nouvelles personnes qui entrent au gouvernement, mais qui se voient attribuer des responsabilités beaucoup plus importantes à des postes ministériels véritablement clés. Alors, un autre constat, c'est que, en fait, les individus et les forces politiques qui avaient soutenu le chef de l'État, curieusement, sont carrément absents de ce gouvernement. Et là, je vois certaines personnalités proches de la Mouka ou qui étaient de la Mouka qui avaient soutenu le chef de l'État. Eh bien, beaucoup de gens le voyaient entrer au gouvernement, mais là, on ne les a pas non plus vus entrer au gouvernement. Il en est de même de certaines personnalités qui avaient soutenu la candidature du chef de l'État, notamment, bon, je ne citerai pas les noms, eh bien, on ne les voit pas non plus au gouvernement. Et un autre constat, c'est pratiquement un partage, je pourrais dire 50-50, de portefeuille ministériel régalien, et de sorte qu'on a là à faire un dosage subtil qui fait que quand l'un est ministre, eh bien c'est l'autre qui est vice-ministre, eh bien cette chimie, est-ce qu'elle prendra? Et du coup, on est quand même assez curieux de voir comment tout cela va fonctionner véritablement. Alors, la conséquence ou les conséquences de la sortie de ce gouvernement, c'est que, en fait, vous allez assister à une accentuation des divisions véritablement au sein des états-majors de certains partis politiques ou de certains groupements politiques, parce que vous savez que la sortie d'un gouvernement ne fait pas que de joyeux, il fait également de mécontents, et vous allez voir qu'avec le temps, beaucoup de mécontentements vont s'exprimer dans un sens comme dans l'autre. Vous avez aussi la question...
Mais tout le monde ne peut pas être dans le gouvernement.
Bien sûr que oui, mais le fait qu'on ait choisi X et non Y, évidemment, crée du mécontent et vous allez le voir. Et il y a une question de la taille éléphantesque du gouvernement. En fait, cette question pose deux types de problèmes. Le premier, c'est un problème du coût de gouvernance. Le coût de gouvernance, on peut le dire, il est très élevé. Eh bien, vous regardez, nous ne sommes pas probablement le premier à avoir un gouvernement aussi éléphantesque. Là. En Afrique, il y en a beaucoup. Une exagération était arrivée dans un pays qui est pourtant bien coté. Je parle là du Ghana. Le Ghana a été carrément passé, je crois. C'est le gouvernement de 2017 avec le président Ado. Il est passé carrément de 60 ministres à 110 ministres. Donc, il a ajouté 50 ministres. Et pourtant, le Ghana est toujours présenté comme étant un pays qui est géré de manière assez modèle. Mais on voit que chaque fois que le nombre de ministres augmente, le coût de la gouvernance est également très élevé. Parce qu'en fait, un ministère a un coût. Un ministère, c'est le fonctionnement, c'est les voitures de luxe, c'est à la fois les salaires assez faramineux qui leur sont versés, mais il y a également tout ce qui accompagne le fonctionnement du ministère. Et au-delà de ça, quand à partir du moment où il y a plusieurs ministères, il y a là le problème de chevauchement de champs de compétences de ministères. Et ce qui crée avec le temps le conflit de compétences entre différents ministères. Et en parlant de ça, ceux qui ont déjà été au gouvernement savent de quoi je parle. Et ces genres de conflits, s'ils deviennent abondants, ils constitueront évidemment un véritable problème pour le fonctionnement harmonieux du gouvernement, question qui généralement est difficilement gérée par le Premier ministre.
Merci professeur Félicien Kiabamba. On va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Serge Safou Safou de Kinshasa. Le gouvernement Ilunkamba est le bienvenu, même s'il ne répond pas totalement aux attentes de la population qui ne voulait plus des anciens membres du gouvernement ayant échoué à relever le défi de leurs anciens ministères respectifs. Le président de la République et le premier ministre semblent oublier la longue et tragique lutte des Congolais qui se sont battus jusqu'à perdre certaines parties de leur corps pour certains et à sacrifier leur vie pour les autres de façon qu'on ait un changement total en RDC. Ce gouvernement multicolore déçoit un tout petit peu les Congolais acteurs du changement des régimes dans notre pays.
André Alatundu, les Congolais espéraient un changement total.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un changement total? Le changement total, on peut le constater qu'à la fin du mandat. Le changement total, c'est déjà la nature nouvelle du gouvernement. Ensuite, il faut voir comment ils appliquent cela. Il faut prendre son mal en patience. Il ne faut pas déjà aujourd'hui résumer les 5 ans de mandat du président Tshisekedi en une heure de proclamation du gouvernement. Non. C'est un processus. N'est-ce pas? Le changement total, il faut aligner les différents changements qui participent globalement au changement et de la gouvernance et de la nature de la gouvernance d'un État. Aujourd'hui, on l'a fait remarquer, le fait que c'est que le professeur appelle les poids lourds ne soient pas là, c'est un grand changement. Le fait que les femmes occupent des postes importants, impensables aux femmes il y a quelques années, c'est très important. Le fait que les négociations se soient passées entre Congolais et qu'on n'ait pas eu besoin d'une tutelle internationale ou régionale pour maintenir, n'est-ce pas, présenter une équipe équilibrée qui puisse donner satisfaction à l'aspiration du peuple, c'est un progrès. C'est la jonction de tous ces éléments qui feront qu'au bout du mandat, on pourra dire, tiens, le mandat du président Tshisekedi a été un changement. Et ce changement ne peut pas s'opérer tout seul. Le changement s'opère avec la majorité parlementaire. Et voilà la source, n'est-ce pas, de cette coalition FCC-CACH. c'est tout simplement la volonté de deux personnalités lucides et patriotes qui disent « Nous n'avons aucun intérêt à continuer à prolonger la campagne présidentielle, la campagne électorale après les résultats. Travaillons ensemble pour présenter au peuple, après notre mandat, eh bien, un programme acceptable qui participe à l'évolution, au développement du peuple congolais et de son État. »
Alors, par rapport à la représentativité, André Alain Atundu, le Premier ministre a déclaré que toutes les provinces étaient représentées, mais il y a les députés du Nord Ubangi qui ont dénoncé la non-présence d'un ressortissant de cette province dans ce gouvernement. C'est déjà un début de frustration.
Il faut avoir le sens de la mesure. Il faut avoir le sens de la mesure en toute chose. Est-il possible ou a-t-il été possible que les 26 provinces se retrouvent? Il faut voir les réalités des discussions. Si, par hasard, j'admets ce qu'ils ont dit, que sur le 26, il n'y a eu que le Nord Ubangi qui a été oublié, eh bien, s'ils ont le sens politique, ils vont exiger une contrepartie ailleurs. Ça, il faut faire de la réelle politique, n'est-ce pas? Il y a des exigences, il y a des contraintes conjoncturelles, structurelles, mais au bout du compte, quelle est l'impression de l'opinion sur ce gouvernement? C'est un gouvernement d'un type nouveau où on ne voit pas les anciens.
Alors, je voudrais que vous puissiez réagir par rapport à l'analyse du prof de tout à l'heure sur le coût de gouvernance qui risque d'être très élevé.
D'abord, je voudrais tout simplement noter que les propos de l'honorable Okende me paraissent marqués par une certaine rancœur teintée de frustration de n'avoir pas obtenu du peuple le pouvoir qu'ils espéraient de droit divin. Mais ce sont des choses qui arrivent, c'est ça la démocratie. Donc moi, je n'ai aucune honte, je n'ai aucune gêne à être membre d'une coalition qui a obtenu, n'est-ce pas, la majorité, la confiance, je dirais presque totale de la population. Qu'ils attendent leur temps. Eh bien, ça pourrait venir, mais pas de façon mécanique. Le coût de la gouvernance. Le coût de la gouvernance me remet à l'esprit le concept de manque à gagner. Beaucoup de gens ne savent pas apprécier ce qu'on aurait eu si telle situation s'était produite. C'est ce qu'on appelle le manque à gagner. Qu'est-ce qu'on aurait eu si l'élection, la période post-électorale était marquée par la violence, par la guerre? Il faut comptabiliser cela. Et tout cela a un prix. Et je dis, je le répète, ce sont des économies de bout de chandelle. Merci. Je le mets au défi que les 65 ministres vont coûter 65 millions.
Merci André Alatundu, cher Moké. On va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Kalemi.
Maître Pascal Betou, depuis Kamina, dans la province du Olomani. Je tiens sincèrement à féliciter le Premier ministre et le Président de la République pour ce travail de titan qui vient d'être accompli. Mais nous appelons aux membres du gouvernement nouvellement nommés d'avoir conscience de mettre leur appartenance politique à côté. Maintenant qu'ils sont membres du gouvernement, ils doivent répondre au Premier ministre et au Président de la République. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ils doivent cesser le langage de leur parti politique dont ils sont issus, parler un langage d'un homme d'État, afin de travailler dans la vision du chef de l'État et détruire la corruption, c'est donc qui a détruit le développement de ce géant pays d'Afrique.
Alors, c'est Ruben Okende.
Ben oui, je suis d'accord avec lui, je fais la lecture de sa lecture en disant qu'il émet les mêmes inquiétudes que nous. Lorsqu'il demande à ce que le ministre puisse travailler sous la guidance du président actuel, donc Félix Tshisekedi, et du Premier ministre, c'est que quelque part, ils ont une autre approche, ils voient autre chose qu'au lieu de respecter ou de suivre le président de la République, ils suivraient une autre autorité morale. Et suivez mon regard, vous saurez où est-ce que je regarde, sans effaroucher André Alain Atundu, que je regarde à ma droite ici. Je vais rebondir dans ce qu'il a dit. La rancœur, la frustration, parce qu'on n'a pas atteint ce que nous voulions. Il a totalement raison. La frustration n'est pas des chérubins au Kindé. La frustration est du peuple congolais, qui sait pertinemment bien qu'à la présidence de la République, il avait un candidat qui a caracolé, mais avec tout le tripatouillage qui s'est passé à la fameuse Cour constitutionnelle et à cette CENI qui ne promeut pas l'état de droit et la démocratie, nous avons vécu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc, la frustration n'est pas des chérubins au Kindé, la frustration est du peuple. Qu'à cela ne tienne, nous, en tant que républicains, nous disons, nous ferons une opposition républicaine. Nous les appelons à leur responsabilité vis-à-vis de la République. Nous allons veiller, nous serons très exigeants. Parce que demain, il ne va pas falloir dire que c'est parce que nous n'avons pas joui de la légitimité d'être à la présidence de la République, qu'ils sont incapables de donner des salaires décents aux Congolais, qu'ils sont incapables de créer des emplois pour ces millions de chômeurs, de jeunes Congolais qui sont dans le chômage, qui sont incapables de nous donner de l'eau et de l'électricité dans ma circonscription de la Lukunga à Kinshasa. Je vais inviter mon aîné, que je respecte beaucoup, André Alain Atundu, pour qu'il voie certains coins de la Lukunga ici, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Ce sont là les problèmes du peuple congolais. Et je pense que tout ce que nous dirons, nous ne serons jamais contre la République. Lorsqu'il se fera de choses dans l'intérêt de la République et du peuple congolais, à toute rigueur, nous allons nous taire. Mais lorsqu'il se fera de choses, pendant que des gens ont clamé fort que le peuple d'abord et que aujourd'hui c'est la prédation au sommet de l'État, nous allons monter sur nos chevaux, parcourir toutes les rues de la République pour le dénoncer. C'est là notre combat politique actuel. Madame, oui, il y a quelques individus, quelques figures qui entrent. Ici, je ne veux pas réduire notre débat au niveau des individus, au niveau de personnes. Les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets. Si FCC Cash reste dans le même cadre de la confusion, ils ne vont pas nous apporter des résultats attendus par le peuple congolais. Je donne encore la faveur de pronostic à d'autres nouvelles figures qui entrent dans ce gouvernement. Ne disons pas que tout le monde est piètre. Non, il y a des femmes et des hommes de valeur dans ce gouvernement. Mais prions le bon Dieu pour que le dictat des autorités morales ne vienne pas incliner le choix politique de ceux qui veulent travailler pour le bonheur du peuple. Et ici, vous êtes en train de parler avec un représentant du peuple. J'ai été élu par le peuple congolais. Je suis à l'Assemblée nationale. Je ferai en sorte que je puisse jouer de ma prérogative de contrôler le gouvernement. Même si par ailleurs...
Vous êtes minoritaire
voilà,
à l'Assemblée nationale.
C'est à cela que je voulais en venir, madame. Alors, vous allez nous aider pour que le peuple congolais puisse apprécier la qualité de nos débats, pour que nous ne puissions pas ployer sous une majorité mécanique qui annihile toute initiative de pouvoir faire entendre les intérêts du peuple congolais. De ce point de vue, en tout cas, nos amis qui viennent d'entrer au gouvernement, malgré la taille pléthorique que recèle ce gouvernement, nous allons les mettre au défi. Je ne pense pas non plus que ça soit le coup de la gouvernance. Mais ce gouvernement doit nous démontrer, doit exciper de la capacité de mobilisation de ressources, de recettes, à la dimension des défis qui se posent au peuple congolais. Nous allons voir. Mais écoutez, le peuple congolais n'est pas dans une amnésie aujourd'hui. Pour oublier que Félix Tshisekedi, dans son programme de gouvernement, avait envisagé plus de 85 milliards de dollars, si je ne me trompe. C'est le moment aujourd'hui de nous produire un budget qui soit à la hauteur des défis, des ambitions du peuple congolais. Donc, Nous n'allons pas nous professer au nivellement de la société vers le bas. Il faut qu'ils pensent autant qu'il y a des ministres qui auront des salaires assez convenables, qu'il y a des députés qui ont leurs émoluments, mais l'enseignant, le policier, le militaire, l'infirmier doivent également avoir droit à un salaire décent. Ce n'est pas Chérubin Okinde qui l'invente, c'est l'article 36 de notre Constitution qui dit « Le travail est un droit et un devoir sacré et quiconque a du travail a droit à une rémunération décente qui lui permette de mener une existence conforme à la dignité humaine. » J'ai cité l'article 36 de la Constitution.
Merci, monsieur le député, professeur Félicien Kabamba. Il y a aussi une réaction pour vous qui nous vient de Bukavu.
Robert Baume de Bukavu, au sud de Kivu. C'est une bonne chose que la RDC soit finalement dotée aujourd'hui d'un gouvernement. Néanmoins, il est vrai que nombreux sont encore des défis que devrait relever ce gouvernement pour que la RDC puisse réellement décoller. Il s'agit de relever d'abord un défi majeur, notamment le défi de l'unité d'action au sein de l'équipe gouvernementale. Autant dire que, quoi qu'il soit des partis ou regroupements politiques différents, les membres du gouvernement devraient orienter chacun ses actions vers un seul objectif, celui de la défense des intérêts de toute la nation congolaise. Mais n'est-ce pas que le mandat qu'ils détiennent est d'abord, juste après du contraire, le mandat du peuple congolais et non celui de leur parti ou regroupement politique respectif? Auquel cas, ce gouvernement ne se démarquerait pas fondamentalement du gouvernement précédent et ce ne serait en réalité que bonnet blanc et bas bonnet.
Alors, on s'excuse pour la qualité de la ligne. Cet auditeur parle des défis, hein, professeur, qui attendent le gouvernement Ilunga, Ilukamba, centre entre l'unité hein, au sein de ce gouvernement pour l'intérêt du peuple congolais.
Bien sûr, c'est un gouvernement qui est constitué de deux plateformes politiques qui jusque-là se sont fait la guerre et qui se sont affrontées sur plusieurs terrains et qui aujourd'hui ont choisi de faire chemin ensemble. Et de ce point de vue, il faut qu'ils regardent vers la même direction. Alors l'inquiétude qu'ils soulèvent est tout à fait légitime, c'est celle de voir les deux clans, donc les deux plateformes, s'ériger en clans politiques tout à fait différent au sein d'un même gouvernement, ce qui va mettre à mal l'action gouvernementale. Et donc, l'inquiétude est tout à fait justifiée. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui a motivé le chef de l'État à pouvoir entrevoir de travailler avec de nouvelles figures qui, jusque-là, n'étaient pas mêlées à ces jeux politiques qui a jusque-là consacré cette dichotomie pouvoir-opposition et qui a miné, si vous voulez, la vie de plusieurs citoyens congolais.
Et personnellement, quels sont selon vous les défis, les vrais défis qui attendent ce gouvernement?
Alors, ces défis sont nombreux. Il y a l'un des premiers défis, celui qui concerne tout gouvernement sérieux congolais. C'est le défi de relever, si vous voulez, cette question de la sécurité. Il faut la restauration de la sécurité et de la paix à l'est du pays. Non seulement à l'est du pays, mais aussi dans le Kasaï ou avec les phénomènes comme l'Ansapou, même si il est de plus en plus maîtrisé. Et donc, ce premier défi est très, très important, mais il y a un second défi. Il a fait partie du programme du président Félix Tshisekedi, c'est la lutte contre la corruption. Et vous savez que il faut absolument mettre fin à cette gouvernementalité du ventre, qui jusque-là, si vous voulez, était fondé sur une sorte d'éthos de détournement des deniers publics. Il faut absolument y mettre fin pour que l'État puisse mobiliser suffisamment de recettes, mobiliser suffisamment de moyens et faire face à de nombreux défis qui sont des défis du peuple congolais. Mais vous avez aussi la réforme du secteur de l'éducation, et vous savez que tout à l'heure toutes les chaînes de télévision et de radio parlent de la gratuité de l'enseignement à la base. Il y a là un défi important parce que on ne peut pas envisager l'avenir d'un peuple s'il n'est pas scolarisé. Il faut là relever ces défis, et telle mesure, si elle est intégralement appliquée, elle peut être un début de cette réforme du secteur de l'éducation qui est attendue, mais il faut également aller jusqu'à l'université, parce que pour le moment, l'enseignement universitaire, moi-même, je suis enseignant à l'université, je peux vous dire que c'est un enseignement véritablement au rabais, et il y a beaucoup de choses qui doivent être faites, parce que le niveau des destructions a été à un niveau jamais atteint, et aujourd'hui, il faut reconstruire. Mais il faut dire que la reconstruction ne se fera pas en une année, non. Nous sommes descendus très bas, il faut commencer à faire quelque chose aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, il y a eu grève à l'université, avec des affrontements entre étudiants et policiers, et ça, c'est un indicateur de ce niveau de destruction de l'édifice éducationnel. Il faut absolument faire aussi quelque chose là-dessus. Il y a la santé, mais vous avez aussi l'amélioration du climat des affaires, avec tout ce qui concerne les trapasseries administratives et policières. Vous avez là beaucoup de défis que ce gouvernement devra relever. Et je crois que le gouvernement doit prendre la mesure de la chose pour commencer à faire ce travail dès aujourd'hui.
André Latundu, plusieurs défis attendent ce gouvernement. Absolument. Il devrait commencer par quoi ou par où?
Trémont vivere deinde philosophari, dit-on. Il faut d'abord assurer la sécurité pour créer les conditions nécessaires d'un développement économique, de l'épanouissement du peuple et de la bonne gouvernance. Et je crois que c'est par cela que l'on a commencé. Consolider la sécurité là où elle était et si possible améliorer. Mais comme l'insécurité n'est pas totale, il faut s'y veiller dans le programme du gouvernement, de façon générale, n'est-ce pas, améliorer la gouvernance de la République, améliorer la situation sociale, n'est-ce pas, de nos populations, améliorer aussi la souveraineté du peuple, la souveraineté de l'État. Donc, ce sont là les défis, je dirais même classiques, d'un gouvernement qui se trouve dans notre État, dans notre situation.
Merci André Alain Atundu. On va considérer cela comme votre conclusion. Cher Ruben Okende, vous avez... Bien sûr, il nous reste deux minutes.
C'était ma conclusion.
Placez un mot pour conclure.
Eh bien, pour conclure, je crois qu'il est temps de cesser nos susceptibilités politiciennes et de laisser place au travail par ce gouvernement afin d'améliorer la situation de nos populations, de garantir une plus grande souveraineté à notre État et enfin de rendre ce pays vivable et agréable.
Merci André Alain Atundu. Cher Ruben Okende, vous avez commencé déjà à relever quelques défis, eau, électricité, oui. Bonne gouvernance. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Et puis vous allez en profiter aussi pour...
Oui, à la suite d'André Alain Atundu, je dirais qu'il est temps de revitaliser notre démocratie. Laisser la respiration démocratique pour que nous, du choc des idées, puisse réellement jaillir la lumière qui conduira. Très vite, en termes de défis, ici, Félix Tshisekedi, en tant que président de la République, son plus grand défi par rapport à la paix et à la sécurité, 7 mois après, il avait promis d'installer son état-major à l'Est. 7 mois après, nous voyons que la paix n'est toujours pas revenue là-bas, qu'il aille vite installer son état-major. Défi aussi, c'est par rapport à l'enseignement. Déjà, demain, c'est la rentrée scolaire. On doit nous dire exactement qu'est-ce qu'ils vont faire du dossier la gratuité de l'enseignement qui est aujourd'hui revenu dans la rengaine politique. Mais nous devons savoir pour ne pas encore entraîner notre éducation, l'éducation de nos enfants aux gémonies qui ne relèvent pas la qualité de l'enseignement.
Merci. Cher Ruben Okende, professeur, conclusion.
On juge le gouvernement que par le résultat. Et donc, on attend beaucoup du gouvernement Ilunga Ilukamba. Par son âge, c'est un homme qui a déjà atteint la sagesse et qui, de mon point de vue, peut proposer mieux au peuple congolais. Et de ce point de vue, nous l'attendons sur le résultat.
Merci, professeur, c'est la fin de cette émission. Merci à Dona Madimba qui est à la réalisation, Jean-Claude Fiala à la mise en onde, présentation et coordination, Kéline Kouté, bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.